VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
16h à Conakry, 17h à Yaoundé. Bienvenue à notre journal. En RCA, des réactions à Bangui au lendemain de la proclamation d'une nouvelle république du Logon dans le nord-est du pays par Noureddine Adam, le numéro 1 du FPRC, le Front Populaire pour la Renaissance de Centrafrique. Ce matin, des habitants du PK5, le grand quartier musulman de la capitale, ont marché pour protester contre ce projet et revendiquer en même temps le départ de certains membres du FPRC de PK5. Plus de détails avec notre correspondant à Bangui, Freeman Sipila.
C'est un véritable ras-le-bol exprimé par les habitants de PK5 venus remettre au responsable de la MINUSCA au siège de la mission onusienne un mémorandum à l'issue d'une marche pacifique. Sur des banderoles, les manifestants réclament le départ des principaux leaders du groupe armé responsable des violences qui ont émaillé le référendum constitutionnel du 13 décembre dans le PK5.
Liberté !
Scandant la liberté, les manifestants menacent de se mesurer à ces hommes en armes si les forces internationales ne prennent pas leurs responsabilités. Mohamed Fadoul Ali, responsable du groupe d'autodéfense de PK5.
Nous demandons à la force internationale d'arrêter ces extrémistes, ces ennemis de la paix. Au cas où la force internationale ne fera pas, nous allons les déloger avec nos vaillants facas de kilomètre 5. On va les déloger par la force.
Après la Renaissance, l'hymne national centrafricain chanté, les mécontents regagnent le PK5, preuve désormais d'une véritable tension dans l'air dans la capitale centrafricaine.
Liberté !
Freeman Sipila, Bangui, VOA Afrique.
Au Cameroun, les autorités exhortent les populations du nord du pays à s'enrôler dans les milices d'autodéfense pour lutter contre les islamistes nigérians de Boko Haram. Ces groupes d'autodéfense jouent un rôle croissant dans la surveillance des mouvements d'individus suspects et l'interception des kamikazes. Manassé Abouya Ndong, professeur de sciences politiques à l'université de Douala, explique l'engouement suscité par ces milices.
Depuis un bon bout de temps, on parvient quand même à détecter les bombes humaines, à les neutraliser. Et ça a un avantage de minimiser les morts, le nombre de morts. Aujourd'hui, dans la partie nord du Cameroun, il n'y a plus d'activité. Donc les populations n'arrivent plus à vaquer à leurs occupations et sont naturellement plus intéressées à participer à ces groupes d'autodéfense qui leur permettent quand même de s'occuper et d'essayer de trouver les moyens de survie en s'impliquant aux côtés des forces de maintien de l'ordre à détecter les kamikazes, les bombes humaines. Donc, ça donnait de l'emploi de manière ponctuelle aux populations et ça rend quand même satisfaction aux autorités administratives qui trouvent des alliés susceptibles de les aider à contrer justement ces attaques venant d'un ennemi invisible, furtif, qui se cache aux frontières et attend le moment d'inattention pour frapper.
Manassé Abouya Ndong, professeur de sciences politiques à l'université de Douala au Cameroun. L'Organisation américaine de défense des droits de l'homme, Human Rights Watch, s'alarme aujourd'hui de la hausse du nombre d'enlèvements contre rançon dans l'est de la République démocratique du Congo. Human Rights Watch dit avoir confirmé l'enlèvement contre rançon de 172 Congolais et 3 étrangers depuis le début de l'année dans le sud-est de la province du Nord Kivu, en grande majorité dans le territoire de Rutshuru. Selon le communiqué, la plupart des enlèvements documentés par Human Rights Watch ont eu lieu dans les zones contrôlées antérieurement par le M23, le mouvement du 23 mars. Rébellion majoritairement Tutsi, soutenue par le Rwanda et l'Ouganda voisin de la RDC, et vaincue militairement en novembre 2013. Et puis en Angola, le procès à huis clos de Luati Beiran, un opposant au régime de Luanda, et 16 autres militants issus d'un mouvement de jeunesse, continue. Ils avaient tous été arrêtés le 20 juin pour avoir demandé le départ du président José Eduardo dos Santos au pouvoir depuis 1979. Depuis son ouverture le 16 novembre, le procès se déroule à Luanda, la capitale, mais loin du centre-ville. Il est ouvert à la presse que par intermittence, en fonction du bon vouloir du juge. Les prévenus sont accusés par le ministère public de rébellion et de tentative de coup d'État. Et ils risquent entre 3 et 12 ans de prison.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
Au Sénégal, le tribunal spécial africain qui juge l'ex-président tchadien Hissène Habré a suspendu aujourd'hui ses activités jusqu'au 8 février. La Cour a entendu hier le dernier témoin de ce procès, Eddie Issango.
Kagenget Bayere Sangena, gendarme à la retraite, est la 93e et dernière personne à avoir témoigné devant les tribunaux depuis le début du procès le 20 juillet. Il a décrit M. Abré comme un homme qui contrôlait tout sous son régime. Sa déposition met fin à l'audition des témoins, experts et victimes, a déclaré Gberdao Gustave Kam, le juge burkinabé qui préside les chambres africaines extraordinaires. En détention depuis 2 ans et demi au Sénégal, où il avait trouvé refuge en décembre 1990, Hussein Abré est poursuivi pour crimes contre l'humanité, crimes de guerre et crimes de torture. La répression durant son régime, de juin 1982 à décembre 1990, aurait fait 40 000 morts. Abré risque la prison à perpétuité.
Au Nigeria, non-lieu au tribunal d'Abuja, aujourd'hui dans le procès du leader du mouvement indépendantiste Biafré, Nnamdi Kanu, après que le parquet eut abandonné les accusations de conspiration et appartenance à une organisation illégale qui pesait contre lui. Nnamdi Kanu est un des fondateurs du groupe interdit Peuple indigène du Biafra et le directeur de Radio Biafra, considéré comme séditieuse par les autorités nigérianes. Son arrestation en octobre a provoqué une vague de protestations dans le sud-est du pays où la sécession du Biafra à la fin des années 1960 avait entraîné un conflit sanglant ayant fait près d'un million de morts, beaucoup victimes de la famine et des maladies. Nnamdi Kanu reste en détention. Il est aussi accusé notamment de terrorisme et doit comparaître demain dans un autre tribunal. Et toujours au Nigeria, mais la lutte contre Boko Haram cette fois. Au moins 30 personnes ont été tuées et une vingtaine blessées dans des attaques contre les villages de Warwara, Mangari et Boura dans le nord-est du pays. Boko Haram est pointé du doigt. L'insécurité continue au Mali. Les autorités font état d'une attaque d'éléments armés dans la nuit de mardi à mercredi contre la localité de Bamba sur le fleuve Niger dans le cercle de Bourem, province de Gao. Bilan, plusieurs militaires blessés, une camionnette équipée d'une arme lourde volée. Par ailleurs, on en sait davantage maintenant sur l'attaque contre une position de l'armée malienne dimanche dernier dans la zone de Niono. Selon le site d'information Al-Akbar, basé dans la capitale mauritanienne Nouakchott, l'opération serait l'œuvre du groupe djihadiste Ansar Dine du chef de guerre Iyad Ag Ghali. Au Yémen, un calme précaire ponctué d'incidents isolés règne aujourd'hui. Deuxième jour de cessez-le-feu et de pourparler de paix sous l'égide de l'ONU en Suisse. Jacques Aristide nous en dit plus.
Un rare échange de prisonniers de guerre pourrait intervenir aujourd'hui à la faveur d'une médiation tribale, d'après l'AFP. Les forces loyalistes et les rebelles chiites houthis gardaient leur position dans la province de Taiz et dans la région de Bab al-Mandeb, où des affrontements sporadiques étaient signalés selon des sources militaires pro-gouvernementales. La coalition arabe qui soutient le gouvernement a annoncé ce mercredi la mort d'un soldat saoudien dans la région de Najran. Malgré ces incidents, les belligérants ne semblaient pas remettre en cause la trêve de 7 jours décrétée hier à la demande du président Abd Rabo Mansour Hadi au moment où se poursuivaient des pourparlers de paix en Suisse, loin des caméras. L'Arabie Saoudite, qui pilote la coalition Yémen, est désormais encline à favoriser un règlement politique de la crise.
Actualité aux États-Unis maintenant, à Las Vegas, au Nevada, le 5e débat télévisé des candidats républicains à la présidentielle américaine de 2016 a porté essentiellement sur la menace du terrorisme. Le bilan du débat avec le professeur James Caesar de l'Université de Virginie à Charlotteville.
Les candidats qui étaient importants restent importants. Peut-être que Christie a monté un peu par rapport à ce qui était le cas avant. Rubio a été attaqué par les autres, mais il a tenu assez bien. Trump, je dirais que sa performance n'était pas très bonne, mais il a fait déjà, ça ne compte pas. Il va donner un discours demain et tout le monde va parler de lui. Et puis le sénateur Cruz, qui est un adversaire assez important. C'est lui qui attend la possibilité que Trump va s'écouler et il est là pour tenir toutes les voix de Trump.
James Caesar de l'Université de Virginie à Charlottesville aux États-Unis. Et toujours concernant la lutte antiterroriste, l'Arabie Saoudite a formé une coalition islamique antiterroriste de 34 pays, dont le centre de commandement sera basé à Riyad, la capitale saoudienne. Parmi les États membres, Nigeria, Niger, Tchad, Mali, Sénégal, Mauritanie, Guinée, Côte d'Ivoire, Gabon, Maroc et Tunisie. Merci de votre attention. Plus d'infos sur notre site internet, c'est bien sûr voaafrique.com. Vous pouvez également nous joindre sur notre page Facebook.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.